affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Divorce, malaise, défiance, colère, tels sont quelques-uns des mots fréquemment utilisés semaine après semaine pour décrire l'état de l'opinion ou les sentiments qui agitent nos contemporains. De façon également symptomatique, on relève un certain retour de la foule dans le jeu politique avec des manifestations souvent très importantes, parfois même des manifestations sporadiquement violentes. Surtout, et là réside peut-être l'essentiel, il semble que ces mobilisations se cristallisent en dehors du jeu institutionnel habituel, qu'elles échappent aux instances traditionnelles d'intermédiation. Ce fut le cas, on le sait, pour les mobilisations provoquées par le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, dans lequel les partis politiques d'opposition ont été largement débordés et souvent tenus à l'écart. C'est également le cas des manifestations plus récentes dites des Bonnets Rouges, qui se déroulent en Bretagne et surtout en dehors de tout cadre syndical. Tout cela, bien sûr, interpelle, tout cela inquiète également, car on a parfois le sentiment que la France est un petit peu sous pression. Certains analystes y voient une forme de nouveauté radicale, voire un trait distinctif de nos sociétés postmodernes, des sociétés par définition plus mosaïques, dans lesquelles la concorde serait plus délicate. D'autres, au contraire, soulignent la permanence de ce mode d'expression et considèrent, en prenant un petit peu de hauteur et de recul, que nous sommes là dans un mode d'expression qui est traditionnel et qui s'est toujours exprimé tout au long de l'histoire. C'est pour démêler ces questions que nous avons l'immense joie et chance de recevoir Yves-Marie Bercé. Yves-Marie Bercé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous avez surtout écrit un ouvrage qui nous a passionnés dans le cadre du débat que nous venons de lancer. Ça s'intitule « Révolte et révolution dans l'Europe moderne ». Autant dire que l'émission de ce jour sera constituée par une plongée dans l'histoire dont nous espérons, mais nous en sommes persuadés, qu'elle permettra d'éclairer le présent et cette situation de tension que chacun ressent aujourd'hui. La première chose que je voulais vous dire, Yves-Marie Bercé, c'est que la lecture de votre ouvrage m'a ouvert des perspectives extraordinaires, dans la mesure où jusqu'ici, je pensais que les révoltes et révolutions, par définition, étaient des événements exceptionnels. Ils le sont peut-être parce qu'ils brisent le cours habituel des événements, mais après la découverte de vos travaux, j'ai découvert qu'en réalité, ils étaient si fréquents dans cette Europe moderne qu'ils prennent presque la forme d'une constance. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, on peut dire que dans chaque état de société, dans chaque évolution de civilisation, les critères sociaux inventent un mode de contestation qui est propre à ces lieux, à ces dates. De même que au XVIIe siècle, la noblesse mécontente quitte la cour et que une chevauchée en dehors de la cour représente une sorte de prise de distance volontaire, un défi politique. Eh bien, au XIXe et surtout au XXe siècle, on voit inventer des formes de contestation urbaine comme les grèves massives, les défilés protestataires en très grand nombre, inondant les rues des villes, des types donc de prise de pouvoir d'une opinion contestataire, mais d'une prise de pouvoir très éphémère, précaire, qui ne dure pas longtemps et qui n'a pas nécessairement une visée subversive. Donc on a là, si vous voulez, une déclinaison, il faut imaginer des instances, des manières, des types de comportements politiques qui sont nécessairement en tout temps une expression de mécontentement, et puis très exceptionnellement, et c'est là qu'on bascule dans une violence politique subversive qui n'est pas du tout, bien sûr, quotidienne, une instance de révolte, c'est-à-dire de prise, de recours aux armes, d'intervention de la force pour rompre le train ordinaire quotidien des institutions. Alors, sur le terme d'institution, il faut également apporter là un peu de clarté pour les auditeurs, dans la mesure où j'emploie là le terme d'institution, non pas dans le sens de un appareil de gestion qui est prévu et réglementé par des lois, des ordonnances et des décrets de l'autorité légitime, mais comme une manière d'agir qui relève de la sociologie, de l'anthropologie, et qui, par sa fréquence, par ses réitérations répétées, par les ressemblances profondes, prend figure d'habitude, de comportement. On dira que c'est une sorte d'institution au sens anthropologique. Et dans l'Europe des siècles modernes, c'est-à-dire pour dire prendre une perspective très large depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle, dans l'ancien monde où la culture de la terre est prédominante, dans cet ancien âge moderne, la révolte, qui n'est pas nécessairement, bien sûr, un renversement du pouvoir établi, la révolte apparaît comme vraiment habituel et un phénomène auquel les gouvernants, les politologues de l'époque doivent être accoutumés et dont depuis Machiavel ou Botero dans la Ragione di Stato au fin 16e siècle, c'est un doctrinaire vénitien, ces auteurs prévoient des émotions populaires. Le terme émotion populaire d'ailleurs est très significatif, c'est une forme d'émotion collective qui remue, qui met en branle une indignation de village, de ville ou de région entière. Ces émotions doivent être connues des gouvernants, des souverains et de leurs conseillers, mais avec une distance qui résulte peut-être même des préceptes des historiens latins. C'est-à-dire que pour apaiser la foule, il faut du pain et des jeux de cirque, panem et circenses. Et ce lieu commun est repris par Machiavel donc, et par tous les autres politologues qu'on appelle des tacitistes, parce qu'ils ont lu Tacite ou Suétone. L'idée, c'est que le souverain doit savoir prévoir ces remuements de foule, ces émotions populaires, et les apaiser en veillant au pain, c'est-à-dire à l'approvisionnement des grandes villes, au jeu, c'est-à-dire à la multiplication de réjouissances, de fêtes, de bals qui correspondent au faste de la dynastie, l'anniversaire du roi, son couronnement, ou bien aux fêtes liturgiques de la religion chrétienne qui correspondent au cycle des saisons en climat tempéré. Donc tout cet élément une sorte de politique culturelle doit permettre au souverain d'apaiser, de gouverner dans la paix collective. Alors voilà, est-ce qu'aujourd'hui nos gouvernants ont les remèdes qui correspondent au mécontentement, à la spécificité des mécontentements qu'ils rencontrent aujourd'hui dans nos lieux et dates? C'est-à-dire que, puisqu'on a évoqué des manifestations du printemps dernier contre le mariage de même sexe ou les manifestations contre la montée des impôts. Elles ont pris des formes très particulières. Le pouvoir a ses formes de réponse, qui peuvent être de répression, de négation. Et il lui faut aussi, j'imagine, ne fût-ce que par une comparaison diachronique, inventer des formes d'apaisement de plus longue durée, qui sont les pains et les jeux de cirque de notre époque contemporaine.
Certainement, ce qui frappe comme différence aussi à la lecture de votre livre, c'est que les révoltés de l'époque moderne, souvent, en appellent au souverain. C'est-à-dire qu'on ne semble pas être dans le cadre actuel de défiance ou de dénégation de la légitimité des autorités. Au contraire, vous parlez notamment du mythe du roi juste ou du roi trompé, c'est-à-dire qu'on en appelle au souverain, on imagine que si l'on est victime d'une injustice, c'est que le roi, lui, n'est pas au courant, qu'il a dû être mal conseillé, et que cette irruption de fièvre, probablement, va enfin l'informer sur cette injustice, et que ça lui permettra de rétablir les choses. J'y pensais parce que vous disiez que ce n'était pas nécessairement subversif.
Ce sont des thèmes provocateurs. Ils ne sont pas subversifs dans ce sens qu'ils ne tendent pas nécessairement au renversement des instances politiques légitimes ou tyranniques qui sont en charge de l'État. Si on observe donc 3 ou 4 siècles, on s'aperçoit que des changements violents de régime politique et on doit les compter sur les doigts très rapidement. Soit, par exemple, la révolte des Provinces-Unies, des Pays-Bas du Nord, contre l'autorité espagnole, qui aboutit effectivement à une sécession qui est à la fois politique et religieuse. Ça, on peut dire qu'il s'agit d'une sorte de révolution. La révolution anglaise, qui amène le régime du Commonwealth éphémère, qui dure environ 15 ou 20 ans, représente également, bien entendu, une interruption, un changement de légitimité. Il constitue ce qu'on appelle, à bon droit, une révolution. Et puis, bien sûr, la Révolution française, qui devient ensuite même le parangon de la subversion, du renversement total des principes de gouvernement et des modèles d'institutions. Et puis, j'avais oublié, en chemin faisant, bien que ce soit essentiel, la Révolution américaine, qui, j'arrive, voyez, à simplement 4 cas qui sont de véritables révolutions. Mais à côté de ces extraordinaires événements qui bouleversent le cours politique des temps, il y a des centaines, des milliers d'éclats de violence qui n'ont pas du tout cette perspective de futur, de changement, d'innovation, d'un progrès supposé qui entraînerait l'élimination du pouvoir en place. On a au contraire des milliers de révoltés qui ne cherchent qu'à faire entendre ce qu'ils estiment être leur bon droit, une justice bafouée, un déni des bonnes coutumes, un retour aux anciens usages. Et ces gens, ces villageois, anglais, français, bohémiens, allemands ou polonais, tenter de se faire entendre du souverain pour le rétablissement des bonnes coutumes. Qu'est-ce que c'est les bonnes coutumes dans l'ancien monde rural? C'était le droit d'envoyer ses bestiaux paître dans les terres vagues. C'était le droit de vendre ses blés librement au marché sans payer de taxes seigneuriales ou étatiques sur le produit. C'était le droit de se déplacer, de se marier en dehors du village, sans redevance encore ou qui que ce soit, d'être débarrassé de peines de corvée qui étaient très prégnantes, très lourdes dans les régimes de l'Europe centrale et orientale. Or, voilà ce retour aux bonnes coutumes dans la mesure où on avait assisté au cours du XVIe, XVIIe siècle à un renforcement des pouvoirs seigneuriaux qui pouvaient accaparer le profit, les profits, la montée des profits résultant de la vente des grains du fait de l'expansion du commerce maritime. Cet accaparement, si vous voulez, de pouvoirs sociaux par les rentiers du sol, par les seigneuries en Europe, encore une fois, beaucoup plus centrale et orientale qu'occidentale, laisser en arrière le souvenir d'un temps, le XIVe, le XVe siècle, où les paysanneries avaient été relativement libres. Donc on a là un modèle, voyez, provocateur, c'est l'idée d'un retour aux anciennes coutumes, au bon vieux temps, où il y avait une liberté, alors un mythe, le mythe d'une liberté originelle qui viendrait de la création, qui viendrait d'un âge d'or de la nature, mais qui peut venir aussi d'une référence historique précise, d'un contrat qu'aurait souscrit le souverain au moment de la réunion d'une province conquise au domaine de sa couronne, comme par exemple le Dauphiné réuni au royaume de France dans les années 1340. Cette réunion est sanctionnée par la charte delphinale qui résume l'ensemble des privilèges de la province de Dauphiné. De même pour l'Aquitaine, libérée du joug des Anglais, joug qui était extrêmement généreux et qui accordait des libertés, des privilèges aux villes, et que le roi de France, Charles VII, puis Louis XI, sanctionne à leur tour en accordant autant de libertés aux Aquitains que les rois d'Angleterre leur avaient accordé auparavant. On pourrait continuer avec la Bretagne, la Franche-Comté, et ainsi de suite. Donc il y a effectivement là une référence qui n'est pas seulement mythique, qui est effectivement l'idée d'un contrat qui était beaucoup moins précis que de l'imagine ces soulevés, mais ces insurgés, mais qui peut donner l'image d'une liberté originelle. Et puis alors, vous avez dit très justement l'idée qui est beaucoup plus intemporelle, qui est pas, qui se rattache pas à une évolution conjoncturelle, c'est l'idée que le pouvoir légitime ne doit pas être mis en cause. De même que il y a un abîme entre aujourd'hui, dans nos régimes constitutionnels, entre les pouvoirs du chef de l'État, du président de la République, ou quel que soit le titre que porte le chef de l'exécutif, et puis le Premier ministre qui gère les affaires courantes. Et l'idée générale, c'est que si des choses vont mal, c'est à un premier degré celui du Premier ministre, c'est une sorte de fusible, si vous voulez, de bouc émissaire, qui doit être tenu pour responsable dans la mesure où il faut que le principe souverain, le chef de l'État, le président de la République, le roi, soit tenu pour innocent. Donc d'où ce thème, on dira éternel, qui est « le roi ne le savait pas ». Ce sont les mauvais ministres qui sont responsables des malheurs des temps, ce sont eux qui sont corrompus et qui cachent la vérité au souverain. Le souverain idéal, c'est celui qui se promène secrètement dans les rues de sa capitale pour écouter les conversations et les véritables doléances. Et ça, c'est un thème qu'on trouve dans un très grand nombre de souverainetés différentes. On prête l'image à Henri VIII en Angleterre, François Ier, Henri IV en France, mais on trouve le modèle aussi bien dans les contes arabes du temps de Haroun al-Rachid, qui est supposé se promener dans les rues de Bagdad la nuit en costume déguisé pour écouter les plaintes et la réalité de son pays, celle que lui cachent les courtisans et les ministres corrompus. Alors, vous voyez, là, on rejoint un thème. Alors, je ne sais pas si on peut lui trouver des échos aujourd'hui. On devrait lui en trouver.
On pouvait peut-être en trouver.
En tout cas, les constitutions de nos régimes...
La Ve République était conçue comme ça.
...prévoient effectivement cette séparation qui fait que le chef de l'État peut s'affranchir, dépasser un moment de crise, de mécontentement, en faisant porter la responsabilité au ministre qu'il révoque.
Oui, pour cela, il faut qu'il garde la position d'arbitre que lui avait prévue initialement les institutions. Voilà, depuis deux mandatures, c'est moins clair.
Eh bien, alors là, je ne sais pas... Enfin, si, j'ai mon opinion comme tout le monde, mais je crois qu'effectivement, c'est une faiblesse éventuelle d'un chef d'État d'assumer l'immédiateté, si on peut dire la gestion quotidienne qui ne doit pas, qui, d'après la définition des institutions, n'est pas digne de son magistrature.
Il y a, dans tout ce que vous avez dit, autre chose qui est extrêmement frappant et un petit peu déstabilisant lorsqu'on s'en tient à la mythologie la plus courante de ces révoltes et révolutions, c'est qu'on a tendance a posteriori à y greffer des projets messianiques, révolutionnaires, progressistes. Or, à la lecture de votre ouvrage, on se rend compte qu'on n'est pas dans cette temporalité, on n'est souvent pas du tout dans cette temporalité linéaire, mais on peut être aussi dans cette vision plus cyclique.
Alors, on peut trouver exceptionnellement la référence à une sorte de millénarisme qui était... dans des mythes de la société idéale, du paradis sur terre, de déviance chrétienne au cours du Moyen-Âge. Ensuite, on dira qu'avec les idéologies du progrès nourries au XIXe siècle, les lendemains qui chantent, la société sans classe, sont effectivement des perspectives qui sont provocatrices, puisque... on suppose que sur un long chemin de l'histoire de l'humanité, cet horizon est certain. Il peut être plus ou moins lointain, mais il y a là, dans tous les mouvements de l'ultra-gauche, l'idée que, en faisant disparaître des obstacles sociaux, des préjugés moraux, on parviendra à cet état d'utopie catastrophique. Or, dans l'ancienne société rurale, c'est les milliers d'éclats villageois ou urbains que j'évoquais tout à l'heure montrent plutôt des insurgés qui ne se sentent absolument pas coupables d'un crime de trahison ou de lèse-majesté. Ils interviennent, ils prennent les armes pour attirer l'attention du souverain. Et donc, leur projet est très circonscrit. Ils pensent qu'ils répondent eux-mêmes aux vœux, à l'intention profonde du roi, du principe même de la justice souveraine. Et ils sont stupéfaits lorsque des troupes de répression... les renverse et qu'on les transmet devant des tribunaux pour être pendus pour révolte et pour crime de lèse-majesté. Mais donc ce sont des révoltés qui sont absolument vierges de toute idée de subversion et qui sont stupéfaits d'avoir basculé sans le savoir, sans le vouloir, dans un concept de révolte.
Vous avez évoqué le cas des millénaristes. Et en même temps, au fil de votre propos, du rôle des mutations socio-économiques suscitant un désir de retour à une situation précédente, un âge d'or, des circonstances ou l'octroi de droits. Tout cela nous ramène à devoir essayer de démêler le rôle des circonstances, des mutations sociales ou techniques et celui des idées dans ces révoltes. Faut-il qu'il y ait conjonction des deux pour que cela se produise ? L'un des deux éléments peut suffire ? Est-ce que cela varie selon les lieux et les époques ?
Voilà, alors, loin de moi l'idée d'établir une sorte de mécanique sociale qui aurait ses lois, dont on pourrait décrire les phénomènes et qu'on pourrait prévoir. Ce qu'il faut plutôt, c'est dissiper des idées reçues, romantiques, je veux dire, nées effectivement au XIXe siècle dans la représentation romantique de l'histoire de l'humanité. C'est l'idée que se révolte des pauvres gens acculés par la misère et par l'injustice d'un régime oppressif et qui vont donc prendre les armes pour le renverser. Or, en fait, on se rend compte que ce n'est pas un désastre économique qui, dans toutes les annales des différentes nations, suscite des révoltes et leur réitération, c'est la crainte de tomber dans ce désastre économique. Vous voyez, ce n'est pas le désastre, ce n'est pas la misère qui provoque la révolte, c'est la crainte de la misère, c'est la menace ou l'idée qu'on se fait d'un acheminement vers la misère. Il n'y a pas de révolte, mettons, évidente, où il peut y avoir des pillages de grains ou autre, mais il n'y a pas une révolte subversive au Bangladesh, mettons, ou dans des raisons de famine du Sahel. C'est pas les affamés qui vont se révolter. Ceux qui vont se révolter, ce sont ceux qui craignent, à juste ou à tort, à juste titre ou à tort, des mesures nouvelles vont les conduire vers ce désastre. Alors,
c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la crainte du déclassement, non ?
La crainte du déclassement, un exemple plus frappant, si vous voulez, c'est à la fin du XVIIIe siècle, les esprits éclairés, les physiocrates, envisagent et mettent en œuvre un peu partout la libre circulation des grains. Or, cette libre circulation des grains provoque partout des réactions violentes, indignées, des régions productrices de blé qui craignent d'avoir à s'en priver à un moment où de mauvaises récoltes, ces régions qui sont relativement plus riches que les autres devraient pouvoir exporter, approvisionner les grandes villes disetteuses. Et les insatisfactions, les prises d'armes proviennent des régions productrices de blé qui refusent de se priver parce qu'elles ont peur d'être elles-mêmes acculées à la famine. C'est le thème du pacte de famine dans les années 1770. Mais on le trouve le même en Espagne, ça s'appelle les révoltes d'Esquilache, toujours dans les années 70. On les trouve en Toscane, on le trouve dans les régions de l'Empire d'Allemagne. C'est cette idée que, auparavant, chaque échevinage, chaque commune, chaque petit pays gérait ses approvisionnements et il n'y avait pas d'intervention étatique pour transférer les grains. Et la libre circulation des grains, qui nous paraît aujourd'hui un idéal évident, est considérée comme une provocation, une privation. Donc vous voyez, la révolte, c'est évident, là, dans ce cas-là, ne vient pas des régions disetteuses, mais des régions productrices. Alors c'est la crainte de manquer. C'est pas le manque en lui-même qui provoque la révolte.
Je comprends. Là, pour le coup, on voit quand même des parallèles avec la période actuelle.
Oui,
c'était
oui,
le
oui.
terme de crainte du déclassement. Je crois que beaucoup de Français aujourd'hui considèrent que leur situation personnelle, je ne parle pas de ceux qui sont réellement dans le souci, ils existent aussi, mais que leur situation personnelle est correcte. Mais une majorité immense considère que leurs enfants ont une vie moins facile que la leur, que l'ascenseur social ne fonctionne plus. Est-ce qu'il n'y a pas là des choses proches ?
Oui, alors on peut dire aussi là dans un schéma de hiérarchie sociale, ce ne sont pas les strates les plus pauvres, les plus besogneuses de la société et qui sont porteuses de revendications subversives, enfin de éventuellement violentes. Les ressorts des révoltes, les meneurs d'opinion sont, dans tous les cas de révolte qu'on peut analyser, sont des gens qui appartiennent à l'aristocratie ou aux classes moyennes. Et ça a été prouvé, statistiquement, dans tous les cas, soit les cadres de la Révolution anglaise, qui étaient grosso modo les grands seigneurs de la région londonienne et les guildes de la grande ville. Dans le cas de la Révolution française, la thèse classique de Albert Soboul, qui était un grand maître d'histoire de la Révolution, qui par ailleurs était marxiste, mais il avait mis fin à une légende misérabiliste et populiste, c'était l'idée que les sans-culottes soient des pauvres gens, une sorte de prolétariat, alors qu'il s'agit des maîtres de boutiques et de métiers relativement fortunés de Paris. C'est eux qui forment l'immense majorité du sans-culottisme. Et il y a un autre livre qui est paru récemment, qui est très intéressant pour les tumultes parisiens du 18e et du 19e siècle. C'est un livre de Roger Dupuis, professeur à l'Université de Rennes, qui a étudié les gardes nationales, l'histoire des gardes nationales parisiennes depuis les années de la Révolution française jusqu'au-delà. Elles ont été dissoutes en 1871. Et on s'aperçoit que dans tous les tumultes, toutes les journées révolutionnaires des années 1790, et puis ensuite de 1830, de 1848, de 1870-71, la garde nationale, qui sont les bourgeois parisiens, les notables parisiens en armes, puisqu'il y a une sorte de militarisation de la société qui est très forte au 18e et 19e siècle, c'est cette bourgeoisie en armes de la capitale, se considère comme dépositaire d'une sorte de tutelle politique de la nation, et d'avoir le droit de faire ou défaire les régimes, indépendamment de l'opinion des provinces. Et ce sont ces bourgeois parisiens qui, avec la meilleure conscience du monde, prennent les armes et gouvernent la France dans un sens ou dans un autre. Alors, on voit que c'est une sorte d'idéologie de cette mission civilisatrice politique de la bourgeoisie parisienne, qui est un peu indépendante même du choix des régimes politiques. Elle est, de par sa position sociale et centrale dans l'histoire de France, dépositaire de cette apparente légitimité.
Pour poursuivre dans le même ordre d'idées, vous donnez des chiffres assez sidérants d'ailleurs aussi dans ce grand bouleversement qui était la réforme, phénomène bien sûr citadin au départ, mais où on retrouve de façon extrêmement prégnante les professions intellectuelles, notamment celles du livre, et j'en viens à cette question-ci, est-ce que finalement l'évolution des capacités techniques ne joue pas aussi un rôle majeur pour continuer à poursuivre cette idée du rôle des idées quand même aussi au-delà des questions purement socio-économiques ?
Mais voilà, on retrouve la distinction entre les meneurs d'action, des personnages que l'on trouve à la tête des groupes d'insurgés sur des barricades ou dans des armées paysannes qui vont encadrer, qui sont d'anciens soldats, qui sont des petits gentilshommes, qui sont des gens experts au métier des armes et dont l'empreinte, si vous voulez, sur les événements est finalement brève, éphémère, même si elle peut les conduire à la victoire ou à des massacres dans la défaite. Et puis la distinction de ces gens-là avec les meneurs d'opinion qui, eux, sont nécessairement des gens lettrés qui ont eu accès au maniement des idées et à la capacité de les diffuser. Alors, bien sûr, on dira que le mouvement de la réforme au XVIe siècle, qui est un bouleversement dans l'ensemble de l'Europe politique, correspond, mettons avec une ou deux générations de décalage, avec l'expansion de l'imprimerie, et surtout, et par conséquent, des livres saints, et donc d'une vulgarisation de la connaissance de la divinité, de la théologie. Mais il ne faut pas non plus croire que la réforme, la réforme protestante du XVIe siècle, ait été, il ne faut pas la confondre avec un mouvement de subversion politique. Les princes allemands sont ralliés dès les années 1520 à la réforme, y apportent la force, et même la légitimité étatique, c'est-à-dire qu'ils en retirent eux-mêmes un appui considérable vis-à-vis d'instances plus lointaines, l'autorité de l'empereur ou l'autorité du pape, ils appuient, eux, l'expansion de la réforme dans l'ensemble de l'Europe du Nord. En tout cas, la réforme s'identifie aux monarchies puissantes de la Suède, du Danemark, des principautés allemandes et plus tard, bien sûr, du Royaume d'Angleterre.
Absolument. Toutefois, dans votre ouvrage, je vous cite, je me permets de lire un bref passage. Vous dites « Cette révolte, en parlant de la réforme bien sûr, contre la suprématie de Rome, ce refus d'un magistère religieux mettait fin à l'unité spirituelle de la chrétienté médiévale, l'abolition de l'autorité doctrinale, c'est là que ça devient plus intéressant, de la tutelle ecclésiale ouvrait la porte à une prolifération idéologique, au prophétisme et aux sectes, cette explosion spirituelle fut bien un moment révélateur. » Le point clé, c'est que la relation, il me semble, la relation personnelle à Dieu qui est inscrite dans ce mouvement-là, ouvre bien sûr la porte à une créativité sans frein, qui va s'exprimer aussi, peut-être aussi, parce que les connexions mentales, les habitudes...
Je ne veux pas trop m'engager, si vous voulez, sur le domaine d'histoire religieuse, dans la mesure où notre principe était d'examen des institutions politiques. Et là, il y a une ambiguïté qui a été étudiée par des centaines d'auteurs avant moi. Ni Luther, ni Calvin ne laissent la place à ce dévergondage idéologique, si vous voulez. Et quand on pense à cette efflorescence, si vous voulez, de sectes, on pense bien sûr aux anabaptistes, à toutes ces marges de la réforme qui, certes, ont pu exploser à cet instant, mais qui, en fait, se rattachent beaucoup plus à un long courant de schismes, de sectes, d'hérésies seraient, on pourrait dire, intemporelles et millénaires, qui a eu son accès au moment de l'affirmation de la réforme luthérienne puis calviniste, mais qui trouverait en fait, se rattacherait à une généalogie beaucoup plus lointaine qui ferait intervenir les Hussites ou les Cathares et qui serait donc, vous voyez, intemporel, indépendante de la conjoncture propre au XVIe siècle.
Alors pour quitter le domaine de la religion et entrer dans un tout autre, plus léger quoique, Vous parlez du rôle des cabarets et du théâtre populaire. Ça semble léger, mais finalement, on est toujours dans la question des médias et de la façon dont les idées se diffusent.
Voilà, dans la mesure où je me suis plus intéressé par la force des choses, dans la mesure où j'étudiais les siècles modernes, on révolte paysannes, villageoises, populaires, populaires des grandes villes, il fallait envisager quelles étaient les formes de la sociabilité du plus grand nombre. Et c'est le phénomène des tavernes, des cabarets, dont la prolifération correspond en partie au progrès, à la croissance de l'urbanisation. C'est cette prolifération des cabarets qu'il faut nécessairement envisager lorsque on étudie la propagation des rumeurs, la circulation des nouvelles et donc des idées éventuellement provocatrices. Dans le Paris ou le Londres de la fin du XVIIe siècle et a fortiori du XVIIIe siècle, c'est par milliers qu'on compte, on le connaît très exactement puisqu'il paye des taxes d'aide de la vente des vins ou des bières au détail, donc on peut les dénombrer. Alors on sait, et on peut arriver à calculer le nombre de cabarets par habitant, par tête d'habitant.
Oui, vous dites que dans le Paris des années 1710, aurait compté 5000 cabarets, soit un cabaret pour 100 habitants.
Voilà. Oui, alors je pense que pour aller plus avant, il faudrait sans doute distinguer la dimension des 10 cabarets qui, dans un village, c'est simplement un personnage qui vend le vin de son cru et qui le vend à 8 coupés et pot renversé. 8 coupés, ça veut dire qu'il a le haut de la porte qui est rabattu et on ne laisse pas rentrer de client. Et pot renversé, c'est-à-dire qu'on vous verse le vin dans votre cruche en dehors du cabaret. Alors ça, c'est la première forme, si vous voulez, du cabaret. Puis ensuite, si on rentre et qu'on s'attable, qu'il y a des grandes banquets où on a mis un vin, une barrique en Perse, on arrive bien sûr à un niveau de sociabilité beaucoup plus intense, où les paysans, même les gens, les plus humbles villageois, vont passer des journées entières, enfin la journée entière du dimanche. Pour les marchands, pour les gens de métier, du lundi, ce qu'on appelle la Saint-Lundi, parce que les gens chômaient généralement dans les métiers de la journée du lundi. Et puis alors, après, il y a pour monter dans les capitales, il y a nécessairement, au-delà des portes de l'enceinte, et au-delà donc, en deçà, si on peut dire, des octrois à payer pour faire entrer des barriques de vin dans la ville, il y a des guinguettes dans les faubourgs qui vont se situer dans l'axe des grandes routes arrivant aux principales portes. Et là, il y a ces grands cafés, enfin ces grands cabarets, on se transforme aussi en lieu de bal à la belle saison. Mais alors, bien sûr, c'est un lieu par excellence de conversation et de circulation de la vie, des rudiments de la participation politique des anciennes sociétés.
Oui, ce que tout cela inspire, c'est que on sent à travers ces exemples aussi celui de certains métiers dont vous vous rappelez, par exemple les maréchal Ferrand, qui jouent aussi un rôle important parce qu'il y avait une sociabilité qui s'organisait autour d'eux.
À l'atelier du maréchal Ferrand, on boit aussi, ou du forgeron, il fait chaud.
Ça dure un certain temps.
On y vient pour bavarder, on fait ferrer son cheval, ça dure plusieurs heures. Et bien sûr, on boit chopine en même temps et on peut bavarder. C'est là que circulent les nouvelles. C'est pas seulement, effectivement, au fond, le maréchal Ferrand peut devenir cabaretier. D'ailleurs, dans des espèces de coqs de village, additionne les différents métiers. Ils sont à la fois cabaretier, maréchal ferrant, aubergiste, marchand de chevaux. Et ces personnages redoutables peuvent être également relais des messageries et quelquefois archers de maréchaussée.
Donc, ce que tout cela inspire, c'est qu'on se rend compte que dès l'Europe moderne, une partie du pouvoir en marge des institutions proprement dites, au sens juridique du terme, provient de la capacité à détenir ou à faire circuler de l'information. Tout comme aujourd'hui, est-ce que c'est le développement de ces formes alternatives d'information n'explique pas aussi le développement des révoltes ? Avec en arrière-pensée, comme toujours au fil de cette émission, le parallèle avec la possibilité désormais, avec les nouveaux moyens technologiques, le numérique, le développement des réseaux sociaux électroniques, d'également être diffuseur de nouvelles. À rebours de l'imprimerie, qui reste quand même plutôt une structure descendante, le cabaret, le maréchal ferrant, tout cela, ça dessine la carte d'une sorte de contre-culture.
Vous avez raison. La circulation des nouvelles, elle est conditionnée par les moyens de transport. Donc, tant qu'on n'a pas arrivé à dépasser la vitesse du cheval, c'est-à-dire pas avant 1830-1840, la circulation des nouvelles est la même, je dirais, depuis l'Empire romain jusqu'à Louis XVIII. C'est la vitesse du cheval. Il y a également l'entretien des routes, les relais de chevaux qui peuvent aller plus ou moins vite, mais enfin, on ne dépasse pas la vitesse du cheval et on sait qu'il faut 8-10 jours, par exemple, pour que la nouvelle de l'assassinat d'Henri IV parvienne aux autres dans les Pyrénées ou à Marseille. Une nouvelle aussi exceptionnelle qui est portée par des relais de postes. On sait exactement à quelle date et à quelle heure elle intervient ici ou là. Donc il y a un conditionnement là qui rythme, qui scande l'ancienne société jusqu'au début du 19e siècle. Alors elle a donc d'autres procédés de circulation d'une rumeur provocatrice. C'est comme ça que des révoltes locales, provinciales, qui surgissent très loin d'une capitale, très loin de Vienne, très loin de Londres, très loin de Paris, vont pouvoir se développer sur place, aller de village en village, de tocsin en tocsin, de rassemblement de marché ou de foire à un autre marché ou une autre foire la semaine suivante, avant que le pouvoir central de Vienne, de Londres ou de Paris ait eu la possibilité d'être informé et de rassembler des éléments de force qui puissent intervenir sur place pour disperser des attroupements, pour exercer une répression. Or, dans la France des temps modernes, il n'existe pas de force répressive. La maréchaussée représente vers 1700, mettons sous Louis XIV, environ 2000 cavaliers pour une France qui avait à peu près presque les dimensions qu'elle a aujourd'hui et 18 à 20 millions d'habitants. Donc cette maréchaussée est purement symbolique, c'est pas elle qui peut. Et donc l'ordre public est fondé sur le consentement local. C'est les milices bourgeoises ou villageoises, la noblesse à cheval, qui, en cas de danger, débarquement des Anglais, un raid des Espagnols, que sais-je, ou une révolte qui deviendrait sanglante, qui peuvent avoir les moyens d'intervenir sur place. Donc, il faut généralement plusieurs semaines, plusieurs mois, avant qu'un pouvoir central ait les moyens de réagir. Ce qui laisse toute la possibilité à des révoltes villageoises d'avoir une certaine expansion. Et donc, en même temps, s'ils ont un peu de maîtrise du temps, des éléments d'organisation et de réflexion, de rédaction de manifestes. La révolte qui dure, la révolte de Naples en 1647, la Fronde en 1648-53, la Révolution anglaise, sont marquées par une aggravation, une extension des revendications originelles. C'est-à-dire que d'autres chemins faisant, puisqu'il y a une sorte de vacance du pouvoir, d'absence de réaction des autorités de force, on a une efflorescence, une imagination politique, une mise par écrit ou par cri de revendications qui étaient implicites jusque-là, mais qu'on n'avait pas eu le temps ou l'audace d'exprimer avant la durée de la révolte. Donc, vous voyez, il y a une dynamique propre aux révoltes, alors, qui ne peut pas accoucher d'une subversion qui aurait été inimaginable dans ces circonstances politiques et sociales de l'époque, mais tout au moins une radicalisation dans les limites, encore une fois, de l'imaginaire politique du temps.
Bon, donc, ça nous mène à cette question fondamentale. Votre livre est titré « Révolte et révolution ». Quels sont les traits distinctifs de l'une et l'autre ? La révolution, c'est une révolte qui réussit, qui va plus loin. Est-ce que d'emblée, certains événements peuvent être qualifiés de révolution ? C'est très complexe tout cela. Comment démêler ?
Mais non, là, je me suis refusé, bien sûr, à faire une sorte de définition, encore une fois, où l'histoire deviendrait une science exacte, croirait pouvoir s'ériger en science exacte et proposer des modèles de concaténation de mécanique. Simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, par précaution d'entrée de jeu, des révolutions, je n'en compterai que quatre dans les trois siècles ou quatre siècles de l'époque moderne, encore une fois, les Provinces-Unies, la Révolution anglaise, la Révolution américaine, la Révolution française, où on a effectivement un projet qui se radicalise et qui aboutit à un renversement total de l'autorité, enfin des pouvoirs institutionnels originels. Et ce que je crois, c'est que le soulèvement des Provinces-Unies, la Révolution anglaise, la Révolution américaine et même la Révolution française, on le sait, n'avaient pas prévu dans leur première semaine, dans leur premier mois, le déroulement. Personne, en 1566, aux Pays-Bas du Nord, n'envisageait de se séparer de la fidélité au roi d'Espagne. Personne, en 1640, en Angleterre, n'envisageait de renverser Charles Ier, a fortiori de le mettre à mort. Personne, en 1772 ou 13, n'envisageait dans les colonies américaines, anglaises de l'Amérique du Nord, de se séparer de la fidélité au roi George III. Et a fortiori, à l'été 1789, personne ne voulait renverser Louis XVI.
Oui, on commence par des cahiers de doléances et on finit par couper la tête du roi.
Dans une doléance qui ne prévoyait absolument rien de subversif, qui était, encore une fois, dans la continuité traditionnelle. On l'avait oublié au cours du XVIIIe siècle, mais la forme des doléances et des réunions d'États généraux avait été une institution très vivante entre le XVe et le courant du XVIIe siècle, avec rédaction de cahiers de doléances, de requêtes, qui intervenaient dans la rédaction des lois, dans la mesure où, après une assemblée d'États généraux, le roi composait un code d'ordonnance, un édit, prenait en compte les principales résolutions, les principales, pardon, pas résolutions, mais doléances des trois États.
Donc dans ces cas-là, si je comprends bien, ces révolutions sont initialement des révoltes avec des objectifs relativement prosaïques et ensuite...
Prosaïques, enfin, qui ne sortent pas du champ légitime des institutions telles qu'elles sont vivantes, telles que le roi, le chef d'État les autorise. Il n'y avait pas que des rois, puisqu'il y a des républiques d'anciens régimes, Venise, les cantons suisses, les provinces unies, ont des institutions aristocratiques dont l'ordonnancement est à peu près le même que celui des monarchies.
La réponse donnée à cette impulsion initiale est donc cruciale.
Oui, c'est-à-dire que personne ne le prévoit. Là, je ne crois pas du tout qu'on ait à aucun moment envisagé. Enfin, il y a bien sûr des écrivains d'utopie. Il y a comme on dira, mettons que Machiavel on peut être en quelque sorte un modèle, que Campanella, d'autres écrits prophétiques peuvent avoir ce caractère, on dirait apocalyptique, de recommencement, de subversion totale pour le renouveau d'une cité idéale, pour la naissance d'une cité idéale. Mais ce type d'écrit n'a jamais d'écho de masse. Enfin, je ne veux pas... Là, il est évident que la barrière du 19e siècle s'impose. On a, au cours du 18e et du 19e siècle, un changement de regard sur le temps, sur le cours de l'histoire de l'humanité. Et on peut résumer en donnant cette espèce de grande causalité démographique. C'est-à-dire qu'au cours du 18e siècle, quelque part, dans les années 1700, la dernière grande épidémie de peste, c'est 1720, dans l'Europe occidentale. Donc, la mortalité infectieuse recule. L'alimentation est meilleure, du fait de la circulation, justement, des marchandises, des meilleures routes, des meilleures circulations maritimes. Donc, il y a un allongement de l'espérance de vie et il y a une très relative réduction de la mortalité infantile. Donc il y a une croissance de population qui sera de plus en plus forte, et dès lors qu'il y a une surabondance de jeunesse dans la pyramide des âges, il y a dans la société globale une projection vers l'avenir qui n'existait pas dans l'ancienne pyramide, d'ancienne structure démographique. Dans une société de vie courte, les vieillards représentent une sagesse essentielle qu'il faut suivre, auquel il faut se conformer. Dans une société d'une jeunesse nombreuse et frémissante par la force de l'âge, on a une projection dans l'avenir. Dès lors, le changement, c'est les lendemains qui chantent. C'est plus l'âge d'or, comme dans l'ancienne société rurale, mettons, antérieure au XVIIIe siècle. Et on a donc la possibilité de théoriciens qui vont, on aura Fourier, Karl Marx ou Proudhon ou d'autres plus modestes ou Tocqueville, mettons, qui vont rechercher les linéaments d'une société future.
Et dans une société comme la nôtre, alors où la durée de vie s'allonge considérablement et où toutefois la jeunesse n'est pas la classe la plus nombreuse.
On peut dire qu'effectivement, ce qui nous frappe en tant qu'historien ou en tant que, on dira, connaisseur des anciennes sociétés, c'est la capacité d'ignorance, de détachement des nouvelles générations, de ces connaissances. Le passé bascule là vers dans une obscurité On pourra dire que c'est une forme de santé de la société globale. Moi, je crois que c'est en même temps, le revers de la médaille, ça sera l'idée qu'on a une santé juvénile. Le revers, c'est que c'est une perte de connaissances globales. L'histoire ne doit pas être connue comme une nostalgie, comme une sorte de restitution de valeurs du passé. Elle doit être connue parce qu'elle fait partie de l'ensemble du regard qu'on peut avoir sur l'univers, sur l'évolution des temps, des choses, des comportements. Et je crois que il faut maintenir la connaissance, enfin pas maintenir, le terme est faux, il faut aller sans cesse plus avant dans la pénétration de la connaissance des sciences humaines.
Ça peut faire guise de conclusion, ça, non, professeur ?
Ah ben voilà, c'est ambitieux. C'est-à-dire que je considère que l'histoire est la mère des sciences humaines.
Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs, s'ils voulaient écouter cet appel, je leur propose de se plonger sans plus attendre dans l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui, « Révolte et révolution dans l'Europe moderne » par Yves-Marie Berset. C'est une opportune réédition aux éditions du CNRS et ça permettra à tout un chacun effectivement de réaliser que si l'histoire est la mère des sciences humaines, elle permet aussi de réévaluer notre présent à l'aune des connaissances accumulées, et cet ouvrage en est une merveilleuse illustration. Merci beaucoup Yves-Marie Berset.
Merci. Thank you.